Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Voilà, dans cette série d'émissions, je m'inspire de mon livre « Comprendre la culture générale » qui est paru chez Ellipse il y a une vingtaine d'années maintenant et qui, en version papier, est toujours disponible. Mais je prépare actuellement de ce livre une version électronique. Je vous tiendrai au courant de sa parution. Donc, où en sommes-nous ? Nous en sommes dans le chapitre 1 de mon ouvrage qui est consacré aux définitions. Et donc, nous allons voir maintenant la différence qu'il y a entre la culture et les traditions. Nous avons vu lors de la dernière émission que l'homme s'était discipliné justement par rapport à sa zone pulsionnelle en s'imposant certaines conduites, certaines manières de se comporter. Et là, le livre essentiel est celui de Norbert Elias. Il s'appelle ce livre « La civilisation des mœurs ». Il est paru chez Agora Poche en 2003. Alors ce livre fait l'inventaire de tous les comportements, les usages, les conduites par lesquelles l'homme occidental s'est civilisé jusqu'à intégrer petit à petit mentalement toutes les frustrations qu'il s'imposait. Par exemple, alors il y a plein de petits détails concrets, la fourchette, les manières de table, le mouchoir, la chemise de nuit qui va dresser un véritable mur symbolique entre les corps. Après la liberté à cet égard et la promiscuité du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui sont attestées dans la peinture du temps, voilà des habitudes prises pour discipliner les instincts. Ces habitudes ont très vite été intériorisées. Alors ainsi se produit l'éducation des êtres humains. Ce que Reich appelait l'éducastration. Bien sûr, Reich était assez critique vis-à-vis de ce processus. Néanmoins, ce conditionnement par l'imposition d'un comportement effectif me semble important et nécessaire. Et même très vite, il n'a plus été nécessaire, de sacrifier à telle conduite. Par exemple, la chemise de nuit n'est plus que symbolique en période de haute intégration. Il n'est plus nécessaire qu'elle existe réellement, puisqu'un mur invisible et pourtant bien réel nous sépare aujourd'hui des autres corps que nous tenons à distance. Et cela date de l'époque classique du XVIIe siècle, qui a remplacé par un éloignement et une représentation optique du monde un mode de vie de contact étroit ou haptique. Avec ce monde. Haptique, c'est haptestai en grec, c'est-à-dire toucher, vous voyez, hein. Alors, prenons un tout petit exemple, le retour à la nudité des corps, pensons par exemple à la mode des seins nus sur nos plages, il me semble que cela traduit moins une liberté ou une libération des mœurs qu'un haut degré d'autocontrôle et d'intégration des interdits. Et il est moins nécessaire d'éloigner la tentation quand on est assez fort ou assez inhibé pour ne pas y succomber. Donc, outre les travaux de Norbert Elias, on peut voir ceux d'Erwin Goffman, par exemple la mise en scène de la vie quotidienne, qui est parue chez Minuit en 1996, ou bien encore Façon de parler, toujours chez Minuit, en 1987. Et je rappelle que, à propos de cette notion de mise en scène, que l'idée de représentation, au sens même théâtral du mot, une représentation théâtrale, est centrale pour caractériser le phénomène culturel, le monde culturel aussi, hein. Donc, il faut prendre l'habitude de s'observer. Observons-nous nous-mêmes, en ethnologue, devenons les archéologues de nos propres comportements. Et rien n'est insignifiant à cet égard. Tâchons de voir, par exemple, tenez, quelque chose qui nous semble naturel. Prenons le cas de la chaise, hein. Eh bien, l'usage de la chaise signifie la domestication et l'exploitation du corps à des fins de rentabilité, spécialement économique, même dans des activités qui sont dévolues ordinairement à la détente ou au repos. Par exemple, nous mangeons assis, mais les anciens romains mangeaient couchés, vous voyez, hein. Donc, réfléchissons. Hein. La chaise n'a pas toujours été un usage dans tous les comportements journaliers. À l'inverse, efforçons-nous de voir dans le succès, par exemple, de la valse au XIXe siècle romantique, une revanche du contact des corps et du pôle dionysiaque de l'être hein, sur la distance et la réserve qui était incarnée par la danse des époques classiques, le menuet par exemple, où les danseurs ne se touchaient pas, voyez. Donc je dirais, pour prendre cet exemple, que la valse est une problématisation, entre guillemets, de la culture occidentale. On peut aller jusqu'au tango ou aux danses modernes, en ce domaine il n'y a pas de petit exemple, vous voyez. Alors, dernier exemple, le baiser sur la bouche, par exemple, un usage chez nous dans les relations amoureuses. Cela peut compenser l'inhibition sexuelle ordinaire de l'homme occidental. Il est une métaphore, mettons, de la pénétration, et il est ignoré des cultures plus permissives que la nôtre. D'autres baisers sont possibles, sur la main, sur la joue, etc. Mais ici, on s'accorde symboliquement ce qu'on se refuse dans la vie quotidienne. Cette idée de compensation symbolique est très intéressante et nous y reviendrons. Alors, maintenant, je vais, pour bien définir les termes, donner deux sens symboliques possibles, hein, deux sens à ce mot « culture hein. ». Je définirai d'abord comme culture, après Margaret Mead, hein, les traditions transmises par l'éducation qui nous conditionnent et qui sont mentalement intégrées, intériorisées, mais non forcément conscientes. La plupart du temps, même, ces traditions ne le sont pas du tout. Alors cet ensemble transmis et hérité, c'est ce que les Allemands appellent Kultur, hein, Kultur. K-U-L-T-U-R, vous voyez. Bon, ça c'est le premier sens du mot culture. Au contraire, il y a un deuxième sens à culture. Je dirais que le travail postérieur et salutaire de prise de conscience, qui nécessite une enquête sur soi-même, cette auto-observation ou cette auto-ethnologie dont j'ai parlé dans les émissions précédentes aussi, c'est un examen volontaire et parfois une critique qui peut mener à l'abandon, mais parfois aussi à une justification et une réhabilitation qui sera faite pour des raisons psychologiques. Hein. Donc abandon ou justification des coutumes qui sont d'abord transmises et observées aveuglément. Alors cette culture, c'est le deuxième sens du mot culture, elle est alors purement personnelle et elle est acquise dans sa vie par l'effort que fait l'individu lui-même sur lui-même. Et alors c'est là ce que les Allemands appellent Bildung, B-I-L-D-U-N-G. Ce mot Bildung vient d'une racine qui signifie construire et édifier, que vous avez par exemple dans l'anglais to build, édifier, construire, bâtir. Hein. Pensez en littérature par exemple au Bildungsroman hein, allemand, qu'on pourrait définir comme un roman de formation. Par exemple, les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, de Goethe. Voilà, un roman de formation. Alors, il ne s'agit plus ici de la culture héritage, mais il s'agit d'une culture, justement, édification personnelle, culture formation. En grec, on aurait le mot qui est très beau, paideia, hein, qui exprimerait bien cela, paideia, l'éducation, vous voyez. Il y a donc deux visages de la culture, d'abord le dressage par imposition de l'héritage et deuxièmement la formation par une auto-analyse. Alors je vais faire une homologie ici avec ces deux sens du mot culture. Il y a deux sens possibles du mot religion, par exemple. Hein. Si on rattache religion à religare, qui veut dire relier, comme l'ont fait, par exemple, les auteurs chrétiens, comme Lactance, Tertullien, on signifie un lien qui nous attache à une puissance extérieure avec laquelle on passe une alliance. Ad ligare, hein, alliance, l'alliance nouée entre Dieu et Moïse sur le mont Sinaï, par exemple. Hein. C'est donc un contrat, comme on dit en droit, synallagmatique, c'est-à-dire basé sur un échange. Allaguer, c'est échange. Hein. Un échange, une soumission contre une gratification. C'est, comme on pourrait dire en latin, un do ut des. Je te donne pour que tu me donnes. Je te donne à toi, Dieu, mon obéissance, et en échange, je suis fondé à attendre de toi une récompense. À l'inverse, si je te désobéis, eh bien, il est normal que tu me punisses. Cette conception de la religion, le lien, hein, l'alliance, c'est une conception que nous recevons en héritage par notre éducation. Et évidemment, l'institution ecclésiale elle-même, hein, par exemple, sera la représentante et la transmettrice de cette conception. Mais il y a un deuxième sens possible du mot religion, une deuxième étymologie. Hein. Elle s'autorise du grand Cicéron, ou bien de Olugel, un grammairien, vous voyez. Hein. Cicéron rattache religio, non pas à religare, relier, mais à relegere, qui veut dire accueillir respectueusement et relire. Hein. Donc, voyez, élection, florilège, etc., tous ces mots qui signifient un accueil et une lecture. Hein. Alors, il ne s'agit plus de se soumettre passivement à un héritage imposé, mais il s'agit de se former personnellement par la relecture au fond de soi de ce même héritage. Donc, les deux étymologies possibles de religion sont attestées chez les spécialistes de l'étymologie latine. Hein. Voilà. Alors, à l'intérieur de ce dernier domaine, le domaine de la religion, je pourrais dire aussi que l'opposition entre un héritage collectivement transmis et respecté et son intériorisation personnelle caractérise donc la différence entre la religion traditionnelle et ce qu'on appelle la spiritualité individuelle. Hein. La spiritualité est mal vue évidemment par les institutions parce que le spirituel se dispense de la médiation cléricale, si vous voulez, pour atteindre le divin. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, on confond souvent les traditions héritées et la culture. On parle par exemple, en unissant les deux mots, de culture et tradition populaire. Mais à mon avis, il y a avantage à distinguer ces deux termes, même si dans certains cas, quand les traditions ne sont pas superficielles, mais véhiculent de vraies visions du monde, et peuvent être psychologiquement saisies en profondeur et justifiées, les deux mots peuvent signifier deux phases chronologiquement distinctes d'une même chose, d'un même processus. Je répète, tradition d'abord et culture formation ensuite. Je pense que parfois il faut pour être ou pour mieux être, non pas nous délivrer de ce qui nous façonne, mais simplement comprendre ce qui nous façonne, le réexaminer, tantôt pour l'abandonner, tantôt pour le réhabiliter. Voilà, alors je vais aborder maintenant le deuxième chapitre de mon livre, « Comprendre la culture générale », qui est consacré au destin des constructions symboliques. Le premier chapitre était consacré aux définitions, hein, nature, culture, culture, tradition, etc. Alors, destin des constructions symboliques. J'ai mis un épigraphe à ce second chapitre. Tout se construit par le cœur et se détruit par l'intelligence. C'est une citation d'Éliphore dans l'Esprit des formes. Pourquoi alors faut-il réhabiliter ou justifier, non pas toutes, mais certaines traditions qui sont constitutives de productions culturelles ou constructions symboliques complexes? Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Eh bien, c'est que ces traditions, figurez-vous, sont très fragiles et elles ne sont point éternelles, vous voyez, hein? Sur cette fragilité des constructions symboliques, je prendrai quelques exemples. Prenez par exemple l'exemple de la croix. La croix, pour un chrétien, c'est un symbole riche de sens, dont il a pu s'imprégner au fil des années, dont son inconscience est nourrie, ainsi que son langage. Voyez dans le langage, par exemple, des expressions comme « porter sa croix », ou bien, on dit dans la vie, il faut porter sa croix, ou bien faire une croix dessus, hein, pour, par exemple, dire que l'on renonce à quelque chose. Hein. Maintenant, prenez le cas d'une croix imprimée devant un nom dans un dictionnaire. Ce n'est plus qu'un artifice typographique pour indiquer que la personne est décédée. Qui se souvient désormais de l'origine religieuse de ce signe ? Ainsi, vous voyez qu'un signe peut devenir un signal simple, un indice, un signal monosémique, utilitaire, seulement pratique, et il peut ainsi perdre toute son épaisseur culturelle, je veux dire une épaisseur vécue, méditée, etc., vous voyez, hein. Et cependant, dans le symbolisme de la croix, il y a une richesse cachée, un implicite, ou une ombre portée, pour ainsi dire, hein, qui est vraiment une chose importante, hein. La signification, par exemple, d'une croix latine, où la traverse horizontale est plus haute que dans le cas d'une croix grecque, hein, est particulière. Là, dans la croix grecque, les deux parties de la croix se croisent en leur milieu, si vous voulez. Hein. La croix latine est dynamique, la seconde, la croix grecque, est mystique et contemplative. La croix latine renvoie à la mutation décisive au moyen de laquelle le christianisme d'Occident et romain est devenu interventionniste et activiste, puisque le regard est attiré vers le haut ou la partie supérieure de la croix, et la croix grecque, au contraire, donne à l'homme comme but premier non pas l'action, mais la conversion, la métanoïa, puisque le regard est attiré vers l'intersection des deux branches égales de la croix vers le centre. C'est le climat de l'icône ou du christianisme orthodoxe, vous voyez ? Voilà pour l'exemple de la croix. Deuxième exemple, l'exemple de la faucille et du marteau. Naguère, cet exemple incarnait l'idéal communiste, qui était un autre idéal religieux. Hein. Il a été vivant, ce symbole, pendant qu'on a cru en lui. Et maintenant, depuis la décomposition, justement, de l'Union soviétique, à l'orée des années 1990, eh bien, ce symbole va finir dans les souvenirs des livres d'histoire comme une référence morte, vous voyez. Donc le symbole peut très bien se vider de sa vie et mourir, se vider de son sens. Un symbole, quand il est vivant, il n'est pas arbitraire, il obéit à des nécessités, qui sont pour nous principalement des nécessités psychologiques. Mais ces nécessités vont s'effacer lorsque l'englobant, qui a donné naissance au symbole, lui-même va s'effacer. Mais tant que ce symbole est vivant, le sens en est beaucoup plus senti que compris. Il est objet de vie ou d'intuition et non pas de curiosité pour l'intellect. Alors là est l'essentiel du problème que je pose dans mon deuxième chapitre. La question est la suivante. L'homme, par les constructions symboliques, domestiques et discipline ses instincts, et se propose comme modèle de conduite ou repère de vie, des signes ou des images complexes et riches, aussi des récits langagiers, hein, on y reviendra, des fictions, hein, un storytelling si vous voulez. Hein. Donc à ce moment-là, c'est le cœur qui parle en l'homme, qui parle à l'homme, hein, en ce sens que le langage complexe des signes n'est pas calcul réfléchi, mais intuition et suggestion. Ainsi, grâce au langage symbolique, qui est obscur mais qui est puissant, l'instinct va se faire rêve, le désir va se faire idéal, ou comme dirait Freud, va se sublimer. Mais rien de tout cela n'est immortel. Tout cela peut disparaître. Nous sommes, par exemple, aujourd'hui en une période de déculturation. Je suis un ancien professeur, je suis à la retraite maintenant, mais enfin, j'ai constaté dans certaines classes que pour les élèves, un crucifix, par exemple, n'est qu'un tournevis. Ils pensent au tournevis cruciforme, vous voyez. Si on les interroge sur ce qu'est la passion, ils diront que la passion n'est que la passion amoureuse, ce n'est pas du tout la passion du Christ qu'ils ignorent, vous voyez. Et si on leur demande ce qu'est une parabole, ils répondront que c'est une antenne de télévision. Ce qu'il en est des paraboles évangéliques, par exemple, leur échappe complètement. Vous voyez, la surdité n'est pas la meilleure façon d'entendre la musique. Donc en période de déculturation, les signes sont morts, sont complètement dévitalisés. Alors, quel lien y a-t-il entre les constructions symboliques et l'histoire des peuples ? Tout ce que j'ai dit de l'homme en particulier, qui discipline ses instincts par des idéaux dont il va rêver, est tout aussi bien transposable à la vie des hommes en société. Alors, au plan collectif, il y a la horde ou la foule primitive, à l'état naturel. Et puis, cette horde primitive va se transformer. Elle va se faire peuple. Et un peuple, à la différence d'une horde ou d'une foule, un peuple est soudé par un idéal commun, une culture, et un peuple va communier dans des constructions symboliques intégrées et élaborées. Alors c'est Gustave Le Bon qui, dans un livre qui s'appelle « La psychologie des foules », réédité aux presses universitaires de France, dans la collection Quadrige, en 1983, c'est Gustave Le Bon qui opposait aux foules les peuples. Et Freud s'est inspiré de ce livre dans son étude de psychologie collective et analyse du moi, qui est réunie dans ses essais de psychanalyse. Alors, au début des sociétés, imaginez-vous les groupes d'hommes comme étant désordonnés, atomisés, au mieux réunis autour d'un chef qui s'impose par la force. Ce sont les foules, ce sont des hordes, des bandes, ou bien, comme on dit aujourd'hui, des gangs. Et ces foules n'ont pas de construction symbolique complexe, ne connaissent que la loi du plus fort. Au contraire des foules, un peuple a des valeurs collectives partagées, un idéal, une aventure ou une épopée qui sont communs. Pensons par exemple à l'épopée communale française du XIIIe siècle, je prends ici cette expression à Hélifort. La cathédrale du XIIIe siècle incarne un rêve collectif, la commune ou la ville entière. Toute classe admirablement confondue a édifié la cathédrale. Pensez par exemple à Chartres. La cathédrale n'a pu en être bâtie que par un peuple tout entier et non pas par une foule. Donc au début il y a un simple agrégat accidentel et puis la foule ensuite va se fédérer autour d'un rêve commun partagé, un idéal qui va la cimenter, elle va devenir peuple. Et cet englobant collectif va discipliner les pulsions, assurer la cohésion de l'ensemble du corps social. Alors ce sont les constructions symboliques qui ont cette fonction unificatrice de lien social. Elles assurent la liaison des éléments constituant la foule, comme le ciment lie les blocs de pierre dans un édifice. Le tissu social, alors, est rendu dense, homogène. Alors ce sont évidemment les religions, au premier chef, qui ont ce rôle. Et une des étymologies de religion, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pas la seule, comme je l'ai dit aussi, c'est le lien, la liaison, en latin « religare ». Donc les peuples croient en commun, prient en commun, ils sont fédérés par une représentation, un ensemble de valeurs ou un système axiologique ça veut dire qu'il y a rapport aux valeurs, qui les soude et qui les unit. Et aux religions, ensuite, succèdent des représentations laïcisées, les idéologies sociales diverses ou religions d'État, les nationalismes, etc. Aux enfants de Dieu succèdent les enfants de la patrie. Au Te Deum succède la Marseillaise, allons enfants de la patrie. La structure est la même, elle est religieuse, elle est cimentante, je dirais, et fédératrice. Et identique aussi est l'idéologie sacrificielle qui lui est corrélée. Par exemple, mourir pour la patrie va succéder à porter sa croix, vous voyez. Mourir pour la patrie est un si digne sort qu'en briguerait en foule une si belle mort, dit Corneille, ou encore Hugo, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur tombeau la foule vienne et prie. Donc il y a d'abord les prêtres qui disent qu'il faut porter sa croix, puis les instituteurs laïcs et même anticléricaux, même quand ils s'imaginent s'opposer aux prêtres, ces fameux hussards noirs de la République, eh bien ils modèlent religieusement le peuple français autour d'un idéal commun. Ce n'est pas tant le contenu qui compte que la forme ou la fonction. Il peut exister un sacrifice religieux laïcisé dont toutes les inscriptions sur nos monuments aux morts sont l'illustration. Voilà. Eh bien, je vais vous quitter maintenant pour cette émission-là. La prochaine fois, nous verrons ce qu'il en est lorsque se décompose une culture plus dans le détail. Alors, rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.